Rappelez-vous que Thérèse nous a annoncé des états beaucoup plus développés que l'oraison de quiétude à l'intérieur de cette contemplation. L'oraison de quiétude, je dirais, c'est la base. Mais nous allons voir et nous verrions dans l'ensemble de son œuvre que ce n'est qu'une base sur laquelle le bon Dieu va construire toute la vie contemplative, et ce n'est pas simplement un endormissement bienheureux, c'est le début de nouvelles batailles, si je puis dire, mais batailles toutes spirituelles, au cours desquelles il s'agira de laisser le Seigneur lui-même combattre. Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, n'oublions pas que Thérèse nous a dit que l'oraison de quiétude n'était pas forcément un état continu. Lorsque elle nous dit attention, observez bien parce que ce que le Seigneur déclenche à ce moment-là est assez déconcertant, elle commence par nous dire il arrive que à certains moments, etc. Ce qui indique bien que cela n'est pas partout ou rien. Et un Jean de la Croix nous dirait que la contemplation peut n'arriver, au moins sous cette forme un petit peu développée, qu'une fois dans l'existence. Bien. Alors certes, ce n'est pas la règle générale, mais que Thérèse d'Avila, que Jean de la Croix nous disent cette discontinuité, et même que cela peut rester exceptionnel dans une vie spirituelle, suffit pour nous mettre en garde contre l'idée d'une vie contemplative sur un petit nuage dont on ne descendrait jamais. Ensuite, la règle générale, justement, est que la vie contemplative, attention, je vais employer un mot dangereux, est très éprouvante. Très éprouvante. Alors, je ne voudrais pas que l'on retombe dans les craintes devant lesquelles Thérèse nous a déjà rassurés, en nous disant, mais n'ayez pas peur de l'oraison contemplative. Mais enfin, il faut dire aussi que, de même qu'un artiste est plus sensible que quelqu'un qui ne l'est pas, ou de même que le sportif de haut niveau devra endurer plus de douleurs que le pêcheur à la ligne ou le joueur de pétanque, le contemplatif sera de fait plus éprouvé que d'autres. C'est comme ça. Alors on ne choisit pas de l'être, on l'a dit, on l'a redit, et Thérèse, une fois encore, n'est pas là pour nous apprendre à devenir contemplatifs, mais pour nous rassurer quand le Seigneur nous met sur ce chemin-là. En tout cas, s'il est vrai que le contemplatif sera plus éprouvé que d'autres, disons tout de suite que c'est principalement du fait de cette sensibilité, exactement comme un artiste n'est pas exactement quelqu'un de plus intelligent ou même qui a une main, s'il s'agit d'un sculpteur, plus habile qu'un autre, c'est quelqu'un de plus lucide, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Eh bien, dans la vie chrétienne, le contemplatif est celui qui voit ce que les autres savent parce qu'ils l'ont appris au catéchisme et parce que ils y adhèrent de toute leur foi, et c'est très bien, mais là, il y a comme une lucidité qui, comme toute lucidité, fait mal, comme lorsque le soleil frappe votre visage et que vous sortez d'un tunnel. Donc, ne doutons pas que Thérèse, ici, ne mette le doigt sur quelque chose qu'il faut bien comprendre pour avancer dans la vie contemplative. Alors, justement, je vais la laisser nous le dire dans un passage toujours du chemin de la perfection. Je dirais à celles d'entre vous que Dieu ne conduit pas par le chemin de la contemplation, que selon que je l'ai vu et appris de ceux qui marchent dans cette voie, les contemplatifs ne portent pas des croix moins pesantes que sont les vôtres. Et vous seriez épouvantés